Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Pour surmonter les conspirations, l'Iran et la Turquie renforcent leur coopération bilatérale. L'aéroport d'Abrahd a été bombardé pour le troisième jour consécutif au Yémen. Moscou dénonce l'hystérie autour de l'affaire Navalny et demande à Berlin les informations sur son examen médical. Nous faisons partie de l'axe de la résistance, a souligné Ismail Haniyeh. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani s'exprimant à l'occasion de la sixième réunion du Conseil suprême de la coopération stratégique irano-turque a déclaré que les frontières des deux voisins ont toujours été celles de la paix et de l'amitié. Avant d'ajouter, l'Iran et la Turquie, en tant que deux grandes puissances régionales, ont toujours été exposées à l'inimitié et à la haine pour ces deux pays. Il n'y a pas d'autre moyen que de renforcer les relations amicales pour surmonter les conspirations, a souligné le président Rouhani. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Téhéran a lancé un nouveau projet d'usine de centrifugeuse avancée destinée à remplacer une autre installation endommagée par un sabotage en juillet, a annoncé mardi 8 septembre le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique avait indiqué fin août que son usine de Natanz, touchée début juillet par une mystérieuse explosion, avait en réalité été visée par un sabotage. Cette installation aurait été destinée à assembler des centrifugeuses avancées devant permettre d'augmenter la capacité de production d'uranium enrichi en Iran. En raison de sabotage commis à Natanz, l'Iran a décidé de créer une usine à de tout point de vue plus moderne, plus grande et plus aboutie au cœur de la montagne près de Natanz, a souligné Ali Akbar Salehi, président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Nous avons commencé les travaux préliminaires en fournissant l'équipement et en mettant en place une série de chambres de production de centrifugeuses avancées, a-t-il précisé. L'unité de drones de l'armée yéménite d'Ansar Allah a bombardé pour le troisième jour consécutif l'aéroport d'Abha au sud de l'Arabie Saoudite, a déclaré ce mercredi 9 septembre le porte-parole des forces armées yéménites. Le général Yahya Sari a expliqué que les drones de type Qassem K2 ont visé des cibles militaires et sensibles à l'intérieur de cet aéroport et de rappeler que des attaques aux drones sont une riposte aux agressions menées par la coalition saoudienne contre le peuple yéménite. Et puis, au centre du Yémen, les soldats de l'armée d'Ansar Allah se rapprochent progressivement de la ville de Ma'arib après avoir pris le contrôle de 10 districts sur 14 dans cette province du même nom. S'agissant des 4 restants, de larges zones ont été libérées dans ces deux districts et il semble que Sanaa entend resserrer l'étau sur la ville de Ma'arib en vue de la libérer sans combat. Les forces yéménites, appuyées par les tribus, sont arrivées mardi 8 septembre dans les banlieues de la ville de Djouba, capitale du district de Harib. Cette percée intervient après la conclusion d'un accord entre Ansar Allah et certaines tribus dans le district de Rabha au sud de Ma'arib et qui a été totalement libéré ce lundi. Moscou dénonce l'hystérie autour de l'affaire de Navalny et demande à Berlin les informations sur son examen médical en demandant que la partie allemande remette les résultats de l'examen médical d'Alexis Navalny. La Russie dénonce une campagne de désinformation qui vise à imposer de nouvelles sanctions contre Moscou. Malgré tous les appels de la Russie sur cette affaire, affaires, l'Allemagne n'a pas jugé possible d'y répondre rapidement et de manière constructive, a déclaré ce 9 septembre le ministère russe des Affaires étrangères. Dans le contexte d'une approche aussi peu constructive des autorités allemandes, les attaques sans fondement contre la Russie se poursuivent. La campagne massive de désinformation qui s'est déroulée indique clairement que la tâche principale de ces initiateurs n'est pas de prendre soin de la santé d'Alexis Navalny et de découvrir les vraies raisons de son hospitalisation, mais de mobiliser pour imposer des sanctions, indique un commentaire publié sur le site du ministère russe des Affaires étrangères. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que l'accord de normalisation israélo-émirati n'est pas dans l'intérêt de la Palestine ni des Émirats arabes unis. Lors d'une interview avec la chaîne de télévision Al-Manar, Ismaïl Haniyeh a estimé que le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont les bénéficiaires de cet accord. Ismaïl Haniyeh a en outre affirmé que le Hamas fait partie d'un axe fort, à savoir l'axe de la résistance. Il a dans ce contexte fait état des relations solides qui lient le mouvement palestinien au Hezbollah. La vidéoconférence qui a eu lieu entre Beyrouth et Ramallah a constitué une base fondamentale pour le lancement de l'unité nationale palestinienne, a-t-il noté, et d'ajouter une stratégie nationale palestinienne doit être élaborée afin de faire face à l'annexion des territoires palestiniens en Cisjordanie, à la colonisation et à la normalisation. À l'approche de la présidentielle de 2022, l'ancien président français François Hollande a exprimé ce mercredi 9 septembre sur BFM TV et RMC sa volonté de travailler sur un programme pour la gauche social-démocrate sans pour autant évoquer sa candidature. Selon lui, la gauche ne pourra remporter l'élection si il n'y a pas un projet clair. Invité sur BFM TV et RMC ce mercredi 19 septembre, François Hollande a annoncé son envie de s'engager dans l'élaboration d'un programme pour la gauche social-démocrate en vue de la présidentielle de 2022, assurant qu'il a décidé de ne pas de se représenter. Ce que je peux te dire, c'est travailler sur le projet présidentiel, indique-t-il avant d'ajouter que il n'y a pas de question de candidature parce que la question majeure, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Français dans cette situation, a-t-il en fait souligné encore. Le chef d'État du Ghana, élu président de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont élu le président ghanéen Nana Addo Akufo-Addo à la présidence du groupe régional, a déclaré le gouvernement ghanéen. L'élection a eu lieu lors du 57e sommet de la CEDEAO à Niamey, la capitale du Niger. M. Akufo-Addo succède au président nigérien Mahamudu Issoufou et exercera la présidence de tournante du groupe pour une durée de 12 mois. Le président ghanéen s'est rendu à la réunion de lundi à la tête d'une délégation. Les dirigeants ont mis à profit ce sommet pour discuter de questions comme la situation du Covid-19 dans la région ou encore le projet de monnaie unique au sein de la CEDEAO. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Pour surmonter les complots, les relations amicales irano-turques se renforcent, a souligné le président iranien Hassan Rouhani, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président iranien Hassan Rouhani s'exprimant à l'occasion de la 6e réunion du Conseil suprême de la coopération stratégique iran-turc a déclaré que les frontières des deux voisins ont toujours été celles de la paix et de l'amitié, avant d'ajouter l'Iran et la Turquie en tant que deux grandes puissances régionales ont toujours été exposées à l'inimité et à la haine pour ces deux pays. Il n'y a pas d'autre moyen que de renforcer les relations amicales pour surmonter les conspirations, a souligné le président Rouhani. Hassan Rouhani, s'adressant mardi 8 septembre à son homologue de Turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la 6e réunion du Conseil suprême pour la coopération stratégique iran-turc, a souligné « Je suis très heureux qu'aujourd'hui nous ayons à nouveau l'occasion de discuter avec vous et vos collègues du processus de coopération bilatérale et je remercie de Dieu le Tout-Puissant ». Hassan Rouhani, exprimant via la visioconférence ses sincères condoléances et sa compassion avec les familles des victimes de la maladie mortelle du coronavirus en Turquie, a émis l'espoir de voir la crise sanitaire être vaincue le plus tôt possible. Les relations irano-turques ont reposé sur des bases très solides tout au long de l'histoire et les événements amers et inopportuns n'ont jamais pu nuire aux relations entre les deux pays frères et amis. Et ces relations ont toujours été fondées sur le principe de bon voisinage, des valeurs culturelles communes et le respect mutuel. En outre, les deux pays ont toujours prêté attention aux intérêts communs, à la stabilité, à la sécurité, à la paix dans la région, a poursuivi Hassan Rouhani. Heureusement, les frontières des deux pays ont toujours été celles de la paix et de l'amitié. Et les deux gouvernements, en particulier au cours des dernières années, ont essayé de développer des relations bilatérales et de mener ici une bonne coopération régionale et internationale, a encore souligné le président Rouhani. S'attardant sur le fait que les deux pays se trouvent dans une région ultra sensible du Moyen-Orient, Hassan Rouhani a poursuivi l'Iran et la Turquie sont deux grandes puissances dans la région et il y a toujours eu des animosités et des rancunes contre les deux pays qui existent encore aujourd'hui. Et il n'y a d'autre moyen que de renforcer les relations très amicales entre les deux pays pour surmonter ces conspirations, a souligné le président Rouhani avant d'émettre l'espoir que la réunion conjointe entre l'Iran et la Turquie et les accords à venir seront fructueux et constructifs pour les relations bilatérales.